Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude. Et cette semaine, une émission en deux temps. Dans le deuxième temps, on va avoir des commentaires BD et entre autres ceux de Stéphane Gravel. Stéphane qui nous présente son mois en BD, comme c'est le cas depuis le début de notre saison automnale. Alors, un mois en BD qui est un peu ponctué de BD qu'on pourrait rattacher à une certaine actualité du côté américain. Je n'en dis pas plus, donc il sera avec nous tout à l'heure. Et en première moitié d'émission, eh bien, on va se consacrer à un bel anniversaire, celui des éditions Pow Pow, qui ont donc 10 ans en novembre. C'était en 2010 qu'il y avait deux titres qui étaient lancés, Apnée et Yves, le roi de la cruise. Et ben, 10 ans plus tard, on a un éditeur qui a un fort beau catalogue et qui a envie de fêter, de souligner et de revenir peut-être aussi un peu sur son évolution et sur l'évolution du milieu de la BD au fil des 10 dernières années. Alors, c'est avec cette rencontre qu'on débute cette édition de La Vie en BD. Les éditions Pow Pow fêtent leurs 10 ans en 2020, un 10 ans dans un contexte fort particulier avec la pandémie de COVID, l'absence de rassemblement, ben, il n'y a pas eu de grands 5 à 7, de grands rassemblements, de grandes fêtes. Malheureusement, ce sera partie remise, mais c'est pas parce qu'on n'a pas pu le fêter physiquement qu'il faut pas en parler et revenir justement sur l'histoire et l'évolution sur 10 ans de cet éditeur québécois. Alors, pour en jaser avec nous, bien, je suis en compagnie du fondateur et éditeur des éditions Pow Pow, Luc Bossé, bonjour.
Allô.
Alors, bien d'emblée, en fait, on s'en rappelle, l'histoire des éditions Pow Pow remonte en, si je ne me trompe pas, novembre 2010, avec le lancement de deux titres. Donc, il y avait un peu lancé la maison d'édition. Vous aviez choisi Apnée de Sviane et Yves, le roi de la cruise, donc le premier tome de cette série. Et on s'était lancé à l'époque avec deux styles, deux titres assez différents, là, autant dans le style que dans l'esprit.
Oui, puis c'était bien de commencer comme ça, parce que justement, ça ne nous enfermait pas dans un style. Au contraire, ça affichait les couleurs qu'on pouvait aller dans des côtés complètement opposés, même s'il y avait une parenté entre les deux, peut-être graphique ou je sais pas quoi. Là, mais quand tu dis en plus, c'est juste, tu disais, on avait choisi Apnée. J'ai l'impression qu'Apnée a choisi par rapport plus que ça, plus que d'autres choses. Parce qu'au début, on n'était pas en position de choisir quoi que ce soit. Là, c'était plus des coups de chance ou des événements heureux de personnes qui se présentent sur notre chemin.
Et qu'est-ce qui avait amené peut-être le choix justement de se lancer en novembre avec une maison d'édition? Parce que Luc, dans le fond, toi, tu faisais de l'édition plus côté fanzine, auto-édition un peu avant et tu as choisi à un moment donné de passer à une structure plus formelle d'édition, plus classique d'édition.
Oui, bien, étant graphiste de formation, puis j'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la pub en tant que graphiste, directeur artistique, puis puis quand tu es graphiste, tu travailles pour d'autres clients. Puis à un moment donné, vers la fin, j'avais commencé mon blog de bande dessinée. Puis je voulais dessiner plus, prendre plus, que ça occupe plus de temps, puis de quelle façon je pouvais le faire. Donc, le graphiste en moi voulait être son propre client. Puis d'être son propre client, c'est-à-dire faire ce que tu veux, carte blanche, faire des livres, c'était combiner deux mondes qui étaient vraiment passionnants pour moi. Mais c'était fait un peu naïvement, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Puis ça a dérapé, on pourrait dire.
Et dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire un peu que les cinq premières années ou les trois premières années de ton historique d'éditeur et donc des éditions, c'est un peu aussi l'apprentissage du métier, dans le fond, au-delà de la volonté d'éditer des livres, mais comment ça marche la distribution, comment ça marche l'accompagnement des auteurs, la ligne éditoriale, la mise en place d'une structure plus formelle aussi, etc.
Ah, absolument, parce que, je veux dire, je suis pas allé à l'école pour apprendre ça. C'est pour ça que je dis, je me suis lancé naïvement parce que je savais pas toutes ces choses-là, puis t'apprends sur le tas, puis je me demande si l'avoir su avant de me lancer, je me serais lancé, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de trucs. C'est pas un monde facile. Vendre des livres, c'est pas facile. Donc, je pense que c'était une bonne chose que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. T'sais, je focusais sur faire des livres, c'est le fun, avoir des beaux livres, avoir des livres intéressants. C'était ça qui m'attirait. Mais tout ce qui était autour, la distribution, le marché en général. C'était des choses que j'ai apprises sur le tas, mais je me suis rendu compte que l'écosystème du livre au Québec était vraiment un monde accueillant quand même. Il fait vraiment fascinant, puis qui permettait de... Il y avait de la place, en fait, puis j'ai pas senti que je dérangeais ou que j'étais un imposteur. Au contraire, j'ai senti beaucoup d'accueil, puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé, puis qui m'ont aidé dans mon apprentissage, puis qui est pas terminé, d'ailleurs, là. Puis c'est ça qui est plate cette année, de l'absence d'événements. En événements, c'est là que tu apprends plein de choses, là. Tu vas au salon du livre, dans des festivals. Là, tu parles à d'autres éditeurs, à d'autres auteurs, à d'autres distributeurs, à d'autres libraires. Puis là, c'est là que ça passe. Puis là, c'est là que l'échange d'idées, puis que juste des petites conversations par-ci, par-là. Puis c'est là que tu bâtis tes connaissances, là. Puis cette année, c'est le côté triste de la chose. Non seulement tu vois plus le côté humain, tu vois plus les gens, mais aussi le côté, l'information en concrète, un peu ouais.
Oui, parce que dans le fond, nécessairement, si ces milieux sont accueillants, si on arrive avec des idées, avec une volonté, mais c'est possible d'aller chercher ces informations-là. Et dans le fond, ça devient un peu essentiel au-delà de la vente pour PowerPower, par exemple, d'être présent au Salon du livre de Montréal, le Québec. Tu as fait des Comic-Con, tu as fait des salons à grandeur du Québec. Ben, tu veux pas, les gens que tu croises dans ces événements-là sont toujours un peu les mêmes aussi. Donc, il y a des liens qui se tissent entre les éditeurs, entre les auteurs, etc.
Exact. Puis c'est pas, comme tu dis, c'est pas, c'est, oui, la vente de livres, là, mais je suis allé à des salons ou des événements que la vente de livres ne couvrait pas les frais, mais ça valait quand même la peine d'y aller, justement, pour les rencontres que tu fais, puis les liens que tu tisses. Puis c'est pour ça que je dis que l'écosystème du livre au Québec est vraiment, vraiment, vraiment solide, parce que justement, il y a une structure qui s'étend quand même assez efficacement, je trouve.
Il faut dire, en fait, si on se reporte en 2010, quand tu t'es lancé, l'écosystème BD n'était pas le même non plus. Depuis, en 2020, ben là, il y a eu une explosion au niveau du livre jeunesse. Il y a des éditeurs qui sont lancés, qui sont un peu spécialisés dans une certaine BD jeunesse. Je pense à Presse Aventure, je pense à Michel Quintin. En 2010, en termes de BD pour adultes, disons, il y avait La Pastèque, il y avait Mécanique Générale, puis il y a eu PowerPower, mais dans le fond, c'était un milieu qui était beaucoup moins... qui a pris en dynamisme, si on peut dire, au fil des 10 dernières années.
Oui, puis c'est une bonne chose parce que c'est la base, hein, je veux dire, les autres, il y a de plus en plus d'auteurs, en fait, là, puis ça prenait des structures pour pouvoir les diffuser. Je pense que c'est une combinaison de plein de choses. Il y a eu la mode du blog BD pendant le début des années 2000. Puis là, il y a beaucoup de formations d'auteurs qui s'est créé là, tout ça. Puis, puis je pense que ça l'a... il y a beaucoup de gens qui se sont commencés à s'intéresser à en faire. Puis d'avoir des structures était vraiment important. Puis là, il y en a de plus en plus. Là, il y a une nouvelle adresse, t'as Front Froid, puis il y a encore de la place, selon moi, à avoir d'autres structures parce que les nouveaux auteurs cognent à la porte. La quantité de manuscrits que je reçois augmente d'année en année. Puis je peux pas toutes les faire, là. Puis tu sais, des fois, je vais dire non à des projets qui méritent d'être publiés. Là, c'est même pas une question de pas aimer ce que tu refuses. C'est vraiment une question de capacité, là, je veux dire. C'est faire des livres, c'est du travail. Donc, faire 20 livres par année, c'est impensable pour notre structure. Fait qu'il faut qu'il y ait d'autres structures parce que ces livres-là méritent d'être publiés et d'être lus.
Et tu m'amènes un peu vers la question justement de ligne éditoriale, choix éditorial, dans le fond, dans ce que tu choisis de publier, dans ce que tu choisis d'aller de l'avant. De ce que j'ai toujours perçu, tu t'imposais pas nécessairement une quantité de livres où tu disais pas justement il faut en faire 10 par année, 20 par année. On y va un peu avec les goûts, avec la capacité, dans le fond, plus qu'avec une ligne très, très, très imposée, très, très cadrée, dans le fond.
Non, c'est sûr que il y a eu les quotas ou les quantités, c'est sûr que ça prend, tu peux pas ne pas sortir de livre pendant une année, il faut quand même que tu sois présent, tu sois quand même actif. Il y a eu même à un moment donné que les subventions, certaines subventions étaient au quota, tu sais. Fallait que tu réussisses à publier tant de livres, puis ils ont changé ça. Je pense que c'est le Conseil des arts qui fonctionnait comme ça, puis je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient changé ça, parce que tu veux pas de la quantité, tu veux de la qualité, dans le fond. Puis de demander aux éditeurs de faire, mettons, je sais pas moi, 12 livres par année parce que c'est 12 livres, puis que tu es rendu à 10 livres, puis là, tu en fais passer deux juste parce que pour répondre au quota, c'est pas une bonne manière de faire de l'édition, selon moi. Donc, effectivement, le choix est beaucoup plus qualitatif que quantitatif, mais en même temps, je considère que dans les 10 dernières années, surtout dans les 5, 7, 8 premières années, quasiment tout le temps, je pense qu'on est très chanceux, je suis pas en part de... La plupart des projets qui se présentent, c'est pas trop long qu'ils passent en impression. Parce que justement, il n'y a pas de. La quantité est pas si grande que ça. C'était... Mais là, c'est depuis 2 ans, ça commence à... Ça, c'est rassurant. Tu sais, tu dis, OK, on a des livres pour les 2, 3 prochaines années, mais il y a un bout de temps, c'était, je sais pas, ça va être quoi la prochaine saison. Puis là, tout d'un coup, les Français, si, hey, j'ai un projet, Alexandre a un projet, Sylviane a un projet. Fait que, il y a eu beaucoup de chance dans cette aventure-là, puis j'en suis conscient.
Il y a une partie où il faut que tu suives tes auteurs aussi, que tu te laisses guider par tes auteurs avec qui tu as une relation de confiance. Puis de l'autre côté, tu essaies de cibler des auteurs que tu as envie d'intégrer à ta collection en cherchant la qualité, comme tu disais, donc de bien grappiller, de bien choisir qui tu vas mettre de l'avant aussi.
C'est de plus en plus comme ça que c'est les auteurs qui drive la ligne éditoriale. Puis, étant donné qu'il y a de plus en plus d'auteurs chez Papa, c'est pour ça que je pense que ça devient plus confortable dans le ce qui s'en vient, parce que je sais qu'il y a un bassin d'auteurs qui sont là, qui ont toujours des projets en tête. Fait qu'éventuellement, ils arrivent avec un nouveau livre. Puis, il y en a que ça prend plus de temps, il y en a que c'est un peu plus rapide, mais je me laisse beaucoup guider par ce que les auteurs ont envie de faire aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne éditoriale vraiment définie dans les genres ou dans les styles. C'est plus, il y a des auteurs qui ont envie de faire des livres. On va s'assurer de pouvoir amener à bien leurs projets qu'ils ont envie de faire.
Puis à l'inverse, quand tu vas chercher des auteurs pour les ajouter, est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui te guide, mettons, vers des Tom, vers des Antonin Buisson, vers des Blanc, vers des François Vigneault, ou un peu avant aussi, dans le fond, tu as quand même introduit, bon, je pense à Sophie Bédard et d'autres, dans le fond, il y en a que tu as introduit qui sont aujourd'hui établis, il y en a que tu as introduit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui guide un peu quand on n'est pas face, parce que, bon, Viviane, Francis Desharnais, c'est des noms qui étaient déjà un peu établis quand ils sont arrivés chez Papa, qui ont peut-être crédibilisé un peu les premières années de Papa en se faisant éditer chez toi. Puis cette crédibilité-là, désormais, tu l'étends à d'autres auteurs que tu vas chercher, puis tu crées, dans le fond, ce cercle vertueux-là. Donc, qu'est-ce qui te guide un peu, toi, comme éditeur?
Eh là là, ça c'est une question pas facile, parce que c'est assez organique quand même comment ça se passe. Souvent c'est des auteurs, par exemple Antonin ou Tom, que tu croises dans les événements, que tu connais depuis quelques années, puis tu parles de projet, puis oui, je travaille sur quelque chose, ben tu me le présenteras, puis là, tu sais, ça peut prendre quelques années. Par exemple, Tom, pas Tom, mais Antonin, c'était ça, c'était ah, j'ai changé, j'ai ce projet-là, j'ai décidé de faire d'autres choses. Puis à un moment donné, il arrive avec j'ai ça, je travaille là-dessus, puis évidemment, tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut travailler à temps plein sur ces trucs, fait que ça a été quand même assez long. Fait que, à un moment donné, bon, ben, j'achève, voici, ça se passe. Mais c'est beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, Blanc, c'est peut-être probablement le seul que j'avais aucune idée c'était qui. Quand j'ai décidé de travailler avec lui, il m'avait envoyé un projet, puis j'avais dit, ah non, c'est un projet muet, ironiquement. Puis j'avais dit, ouais, les projets muets, c'est un peu plus difficile, mais c'était au début de Papa, puis là, je voulais pas trop embarquer dans des projets plus, ben, je vois, dangereux, mais plus risqués, mettons. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste parce que le marché le prouve, qu'un livre muet est plus difficile à vendre, comme un livre de collectif ou un livre à histoire courte, là. Étrangement, tous ces trucs-là, on dirait qu'ils vendent un peu moins. Pas que la vente est la finalité en tout, mais quand même, il faut t'en vendre, tu vas en faire d'autres. Fait que j'avais dit à Blanc, j'ai dit, bon, les projets muets, ça m'intéresse pas trop. Puis il m'avait représenté un autre projet, il disait, j'ai ça aussi, puis là, j'ai fait, ah, wow, OK. Fait que lui, ça a été un des seuls que j'avais aucune idée c'était qui. Tom, plus tard, lui, c'était, il étudiait à l'UQO, on m'en parlait beaucoup, j'avais vu dans des événements, parce que quand on va au festival de BD, le rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, c'est pour ça que les événements, c'est ça que ça sert aussi, tu sais, tu t'en vas dans des festivals, il y a plein d'auteurs, il y a beaucoup de talent, puis on dirait que naturellement, organiquement, il y a des livres ou des projets qui se ramassent dans tes mains, puis des personnes que tu rencontres, puis que tu sens un fit, parce que c'est pas juste non plus le livre, c'est la personne avec qui tu veux travailler aussi, là, tu sais, parce que faire des livres, c'est du travail, c'est pas si lucratif que ça, donc aussi bien le faire avec du monde avec qui tu vas bien t'entendre, puis ça va être plaisant, puis d'avoir du fun au travers de ça, sinon ça vaut pas la peine.
Oui, dans le fond, il y a la qualité créative, dans le fond, la qualité du livre comme tel, puis il y a le volet humain, le côté humain qui est indissociable un peu de ça. Donc, absolument. D'avoir envie de pousser un auteur, de travailler avec lui, d'avoir envie d'avoir un livre que tu as l'impression, j'imagine aussi, qu'il va rejoindre un public. Parce que on peut pas juste se cantonner à Luc Bossé aime ça, mais il faut voir, c'est OK, Luc Bossé aime ça, mais ça pourrait plaire à un tel, à tel groupe, puis de s'en aller aussi dans différents styles. On le disait d'entrée de jeu, donc d'avoir un peu de tout pour tout le monde, mais sans ratisser non plus trop large. Et c'est...
Ben, c'est l'idée, c'est de... Parce que là, avec 10 ans, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a des lecteurs qui aiment les livres de part-part. Il y a des lecteurs qui vont aimer certains auteurs, puis là, t'espères, bon, t'aimes du Julie Delporte, t'aimes du Myriam Mal, mais on fait d'autres choses qui sont quand même différentes. Est-ce que ça tente de l'essayer? Puis tu présentes des trucs un peu plus champ gauche des fois à tes lecteurs. Mais c'est sûr que c'est pas tous les livres qui plaisent à tout le monde. Il y a juste moi qui est le fan numéro un de tous les livres qui sont chez Pampard. Mais je dis juste moi, c'est pas vrai. Il y en a. C'est ça qui est comme fascinant ou touchant ou qui me rémotive. C'est, il y a du monde, des fois, il envoie des photos, là, puis c'est leur bibliothèque, puis ils ont toutes. Ça fait quelque chose quand même, là, tu sais, je veux dire, tout, là, c'est 50, plus que 50 livres, quasiment 60 livres, là, c'est pas rien, là, je veux dire. Fait que ça, c'est super motivant, en fait, là.
Oui, puis en fait, d'une certaine façon, au-delà de la ligne éditoriale du contenu, il y a la ligne graphique aussi de la vision d'ensemble. Dans le fond, il y a une esthétique, il y a un format qui est le format pow-pow. Les couvertures, il y a quand même des éléments qui se ressemblent au départ, qui étaient quand même très similaires, que tu as commencé à éclater un peu avec l'ajout de couleurs, d'autres éléments. On s'éloigne du brun au fil des années, mais il y a quand même une esthétique puis un cadre où on pourrait presque parler d'une collection un peu... Par le choix visuel de présenter l'objet livre, dans le fond.
C'était voulu, ça, depuis le début, parce que je me suis dit, bon, on n'est pas connu. Moi, je voulais avoir un impact de gang dans une librairie, parce que l'espace tablette est quand même difficile à prendre. Puis quand tu as juste deux livres au début, puis trois, quatre, ça prend pas beaucoup de place dans une librairie. Fait que mon objectif, c'était, je veux un jour que les libraires aient le goût de tous les mettre ensemble ou faire une vitrine avec, puis que les gens les reconnaissent entre. Puis, j'ai atteint cet objectif-là. Je pense que dans la vitrine au port de tête, il y avait une vitrine où tous les livres étaient ensemble. Puis tu avais des tablettes chez Monet, puis ils étaient placés ensemble aussi. Puis là, c'était exactement ça l'objectif. C'est que tu les places tout ensemble, tu as un impact, t'as une cohérence, puis que les gens te retrouvent facilement. Si tu fais plein de formats différents, ben là, tu as plus de chances de t'éparpiller. Pas que c'est mauvais, là, je veux dire, moi, c'était juste un objectif de je suis pas connu, aussi bien d'essayer d'avoir, de se donner des chances. Puis aussi, c'était aussi pour toucher aux collectionneurs maladifs, là, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ça aurait été le fun de mettre tes numérotes, là, pour justement agacer la collectionnite aiguë de certaines personnes, mais ça aurait peut-être été méchant, mais il était trop tard de toute façon quand j'y ai pensé, mais bon.
Et d'une certaine façon, dans le fond, on arrive quand même au départ, tu disais que tu t'étais lancé naïvement, mais tu avais quand même considéré justement l'esprit d'ensemble, l'idée d'une collection, et visiblement, tu t'étais lancé avec l'idée aussi d'une expansion, donc quand on est parti en novembre 2010, on n'est pas parti avec l'idée d'une courte aventure, mais d'une aventure un peu sur la durée. Donc, est-ce que tu as l'impression, avec 10 ans maintenant, que tu as dépassé largement les objectifs que tu t'étais donné quand tu t'es lancé au départ, ou tu étais un peu surpris par le fait que tu es encore là, finalement, que tu as poursuivi, ou au contraire, ça répond à ce que tu t'attendais?
Je pense que je suis un gars qui vit beaucoup dans le présent. En fait, j'ai la misère à me projeter. Je ne suis pas sûr qu'en novembre 2010, j'avais des objectifs sur le long terme. C'était plus, OK, là, 2 livres, il faut vendre ces 2 livres-là, puis c'est quoi le prochain? C'est plus comme ça, c'est dans le quotidien, c'est quoi le prochain? Puis, mais c'est sûr que tu es demandé, bon, tu dis, tu as des objectifs plus long terme s'installent après quelques mois, puis là, tu dis, OK, un jour, ça serait le fun d'être en Europe, parce que tu dis, ce serait logique d'avoir une diffusion européenne parce que je vais pouvoir augmenter le tirage, donc je réduis le coût du livre, puis en même temps, les auteurs, c'est clair qu'ils veulent être diffusés en Europe, fait que ça, c'était un objectif. Mais je pense pas que c'était un objectif le soir du lancement des premiers livres. Puis je me demande si j'ai déjà eu une conversation à cette époque-là de « Tu te vois où dans 10 ans? » Je me demande, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que le Luc de 10 ans aurait répondu à ça, parce que ce qui est drôle aujourd'hui, c'est de dire « OK, 10 ans, c'est beaucoup de temps, mais ça a passé tellement vite. » J'ai de la misère à entrevoir c'est quoi les prochaines 10 autres années. Dans ma tête, c'est bon, ben, c'est quoi le prochain livre? C'est quoi le prochain livre? Puis dans 20 ans, ça se peut pas, 20 ans, mais on va s'en reparler dans 10 ans, Raymond, puis tu sais, ça va être la même conversation. Je ne sais pas, c'est plus, je me laisse emporter. J'ai mis mon doigt dans l'engrenage en 2010, puis c'était pas, j'avais pas une vision de faire une maison d'édition, qui allait prendre de l'importance. C'était, OK, j'essaie quelque chose, puis de fil en aiguille, puis là, tu te fais prendre. C'est étrange, l'édition, parce que tu peux pas abandonner. T'sais, je veux dire, du moment que tu fais un livre, tu te dis, OK, ben là, je m'engage sur vraiment le long terme, parce que tu as un contrat avec ton auteur, tu es là pour représenter son œuvre. Tu peux pas te dire, OK, ça me tente plus de faire ça, je tire la plug, puis je mets tous les livres au vidange. T'es comme un peu, c'est gros, là, mais t'es comme dans, tu t'écris une espèce de prison, mais c'est pas ça, là, je me sens pas dans une prison du tout, mais je veux dire, je me sens responsable de ça quand même, là, tu peux pas dire, j'arrête, là, tu sais, je veux dire, c'est
comme une famille, dans le fond, tu t'es engagé, puis ces livres-là, c'est tes bébés aussi, puis okay. Tu veux les accompagner sur le long terme, parce qu'il faut, on dirait, c'est toi qui les as mis au monde, avec l'auteur.
Oui, oui, puis tu sais, des livres qui ont été imprimés il y a 9 ans, puis il en reste encore, tu sais, je veux qu'ils se vendent, ces livres-là, c'est important pour moi, tu sais, il n'y a pas d'abandon à... En tout cas, c'est vraiment... Mais tu ne le réalises pas tout de suite, ça, par exemple. C'est l'espèce de... OK, là, j'ai plus le choix. Là, les premiers mois, OK, c'est drôle. Là, il y avait Sviane puis le roi de la Crouse. Puis là, après, c'était Francis puis Pierre. Puis il y avait Michel Hellman. Puis là, ça prend, là, t'as pris un an. Tu as 4-5 livres. Puis là, tu dis, OK, c'est ça que je vais faire. Là, c'est pas... Là, on dirait que la décision ou la... Tu réalises après coup que dans quoi tu viens de t'embarquer, je pense.
Oui. Puis là, si on regarde un peu la forêt que tu as plantée en 10 ans, Luc, tu disais tantôt, on a une 50-60 de titres. Il y a une belle gang d'auteurs qui est rassemblée autour de Pawpaw. Tu as développé Pawpaw Press, donc des versions anglophones d'une partie de tes titres pour le marché américain, canadien, anglais. À l'inverse, tu as commencé à aller chercher des auteurs canadiens, anglais que tu allais éditer au Québec et en Europe en français. Tu as engagé une ressource qui fait du développement de marché pour l'Europe, pour le marché américain. Ça vient de sortir, dans le fond, un titre qui est un finaliste à Angoulême pour le prix Polar, ce qui est quand même majeur. Donc, il y a quoi, la petite Russie, on parle d'à peu près 10 000 livres qui ont été vendus, 10 000 exemplaires, c'est un best-seller au Québec, à l'échelle québécoise. Tu as un deal avec l'association où tu fais l'édition des livres de l'association au Québec, une partie de la collection, entre autres, ça t'a amené des titres de Lewis Trondheim, ça t'a amené des titres de Guy Delisle. Et là, il y a Guy Delisle, en plus, qui va éditer son prochain livre chez Pawpaw, Les Chroniques de jeunesse. C'est je veux dire, en fait, quand on regarde, qu'on commence à faire la liste des choses, en disant de ces deux titres-là à tous ces éléments-là que tu as développés, j'ai l'impression que tu es devenu un peu un incontournable au Québec avec toutes ces actions-là que tu as menées tour à tour, progressivement?
Ah, peut-être. c'est drôle, mais tu sais, on dirait que ça prend des entrevues comme ça pour s'arrêter puis le réaliser, parce que tu devrais voir, mes journées, je veux dire, on dirait que j'arrive jamais, là, j'ai des lettres qui débarquent de Revenu Québec, là, faut que j'ai pas encore ouvert, puis là, de la poutine plate à faire, puis tu sais, des fois, faut que je prenne le temps de m'arrêter de regarder ce qui se passe, puis encore une fois, j'en reviens à ça, c'est les événements cette année manquent beaucoup justement pour ça, parce que par exemple, comme le Salon du livre de Montréal qui vient juste de passer, pour moi, c'était le moment, OK, dans l'année, OK, tu regardes l'année qui vient de passer, tu as mis tous tes livres sur les tablettes, puis tu dis, c'est là que tu as de la fierté, puis tu sais, puis que les auteurs sont là pour partager cette fierté-là avec toi, puis tout le monde est content, puis on est tous crinqués. Mais là, il manque ça. Puis c'est ça qui est tough cette année, puis c'est plate qu'on fera pas un party pour ce 10e anniversaire-là, parce que, je veux dire, tu fais ça parce que t'es avec d'autres gens, tu t'es pas tout seul chez vous, là, fait que, ouais.
Et si on décortique un peu les éléments que j'ai mentionnés rapidement, entre autres Power Press, donc le développement vers l'Amérique anglophone, c'est un peu un incontournable pour toi d'aller chercher ce public-là, de développer une structure pour aller chercher ce marché-là?
Ça, c'est une drôle aventure, le marché anglophone. Je t'avouerais que, tu sais, encore là, le naïf et le... C'était... Je pense que je l'ai déjà raconté, là, mais ça a été une conversation, j'étais au Festival de BD de Québec, puis je parlais avec Tristan Rouleau, puis on parlait de Ville et Misérable, puis lui, il avait adoré ce livre-là, puis là, c'était au moment que papa était sur le point de s'en aller en Europe. Puis, on avait la discussion de est-ce que Ville et Misérable devrait être traduit pour le marché français, tu sais, c'est-à-dire le remettre au un langage français de France. Tu sais. Puis, je n'étais pas d'accord. Je disais, non, les livres, quand ils s'en viennent chez nous, ils ne font pas traduit. Ben, traduit, je mets des guillemets autour de ça. Là, ils ne sont pas adaptés. C'est pas vrai qu'on va faire le contraire pour l'autre bord. J'ai dit, si un jour je traduis des livres, ben, je vais traduire en anglais. Puis je pense ce soir-là, ou le lendemain matin, je parlais avec Ziane, on fait-tu des livres en anglais? Puis tu sais, ça a parti de même, là, tu sais, c'est sans réfléchir, puis le Kickstarter est mis en ligne, puis il y avait plein de monde qui m'avertissait, fais pas ça, c'est pas une bonne idée, puis il avait raison. Je les ai pas écoutés. Tu sais, il y avait Fred Lapasté qui m'avait dit, il m'avait écrit, il dit, c'est pas une bonne idée, puis il avait raison, tu sais, je veux dire. C'est comme si je faisais une deuxième maison d'édition, puis je doublais ma quantité de travail du jour au lendemain. Ça n'avait pas de sens. Là. Fait que c'est un travail qui est difficile. Puis là, avec la pandémie, ça rajoute une couche de difficulté sur la promotion puis la diffusion. Puis le Canada, c'est grand en tabarouette. Là. Si tu veux commencer à faire le tour des événements, ça prend du bidou. Là. Fait que je suis en réflexion de comment respiner ça. Là. J'ai des idées. Là. C'est juste que comme cette année, c'est particulier. Là. On va attendre un peu plus tard avant de relancer ça. Là. Mais... T'sais, TICAF est une plaque incontournable dans ce projet-là. Puis s'il n'y a pas de TICAF, ben je suis un peu mal pris. Là. Fait que c'est ça. Là, c'est tout ça pour répondre à ta question, c'est. Des fois, il y a des actions un peu réfléchies. C'est vraiment le goût de faire quelque chose qui, sans trop réfléchir. C'est un peu ça par part depuis 10 ans. Là, c'est OK, oui ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Fait que l'anglais, ça a été ça, mais j'abandonne pas l'idée parce que je trouve que Montréal est particulier dans... Tu sais, quand tu vas au festival Exposine, t'es vraiment quasiment moitié-moitié exposant anglais, exposant francophone, dans les visiteurs aussi. Fait que d'avoir une espèce d'ADN bilingue serait vraiment... vraiment intéressant. Tu sais, François Vigneault, c'est un anglophone. Max Fitzgerald, c'est un anglophone. T'as les gars Chris Burton puis Alexander Forbes. Je veux créer ce pont-là puis d'aller d'un deux côtés puis d'exploiter cette richesse-là, parce que ça fait la particularité de par rapport à une maison d'édition française ou européenne. C'est que nous, on est une plaque, on est francophone, mais on est placé entre le village gaulois, là, c'est vraiment ça. Là, t'es entouré d'anglophones, puis on est influencé par l'Europe puis le marché américain, puis ça donne un produit. Je pense que les livres par rapport ou les livres même au Québec ont cette influence-là Fait que ça donne une couleur particulière à nos livres.
Oui, puis à l'inverse, en fait, on est dans un contexte où, je pense, en termes de mise en disponibilité des livres québécois vers l'anglais, en dehors de Drun & Quarterly qui en fait un peu, il y a peut-être des trucs du côté de Gun & Drum, mais il n'y a pas une masse, on peut dire, de traduction, alors que la BD québécoise s'insère bien dans la dynamique canadienne. Et tu mentionnais certains auteurs, on pourrait en rajouter quelques autres aussi, mais il y a de l'excellente BD qui se fait aussi au Canada. C'est une belle scène, c'est un beau milieu créatif. Ouais. Donc, il faut trouver des façons d'amener la BD québécoise dans la BD canadienne aussi.
Ouais. Ouais, puis mais tu sais, tantôt je parlais de l'écosystème du livre au Québec qui est vraiment riche puis solide. Ben du côté canadien anglais, c'est autre chose là, c'est pas les mêmes réalités, le marché est beaucoup plus en crise, Amazon fait beaucoup plus de dommages, c'est dominé par une chaîne Indigo Chapters qui va pas bien.
Le côté village gaulois nous sert beaucoup pour
la distribution. Puis la grosse différence, ça m'a pris 6, 7 ans, 8 ans, je pense, avant de réaliser ça, c'est il y a une loi au Québec qui fait toute la différence, puis qui fait l'envie des éditeurs canadiens anglais, c'est tous les livres que les librairies publiques doivent acheter, les bibliothèques publiques doivent acheter, les écoles sont obligés d'acheter à des librairies indépendantes. Fait que ce revenu-là, il est important dans la survie de ces librairies-là. Puis ça permet d'ouvrir des nouvelles librairies. Il y a une richesse, il y a un réseau de librairies indépendantes qui n'existe pas dans le Canada anglais. Il y en a, mais on est plus en train d'entendre parler de librairies qui ferment parce que les bibliothèques publiques n'ont pas à passer par des librairies indépendantes. Ils achètent directement des gros fournisseurs. Il y en a 3-4 qui dominent le marché. Fait que c'est tout ce revenu-là, tout cet argent-là passe pas dans le réseau des librairies. Donc, c'est des gros revenus. Puis notre petit réseau nous permet de se protéger. Puis ça a des effets bénéfiques. Ça a eu des effets. T'sais, c'était plus pour protéger notre culture, mais en même temps, ça l'a permis de protéger ou de développer un écosystème qui est vraiment solide. Puis le réseau des salons du livre, ça n'existe pas non plus ça, dans le Canada anglais. T'as un salon du livre à Sept-Îles, t'en as en Abitibi, puis il y en a même un à Sudbury qui est dans le réseau des salons même francophones, mais t'as même pas de salon du livre à Toronto. Ils ont essayé d'en faire un il y a 3-4 ans. Une édition, ça a floppé, il n'y en a pas. C'est pas normal, là, tu sais. En tout cas, apprendre sur le tas, c'est ça, puis réaliser après coup dans quoi tu t'es embarqué, ben, c'est ça aussi, là, je veux dire. Fait que c'est un défi qui est quand même plus grand que je pensais, le marché anglophone.
Puis à l'inverse, dans le fond, l'autre grosse négociation, en fait, ou gros deal, que du moins de ma perception, c'est celui avec l'association. Où là, subitement, tu as des livres de Lewis Trondheim, tu as des livres de Guy Delisle qui s'ajoutent à ta collection au Québec et dont tu fais la distribution ici aussi. Donc, j'imagine, en fait, quand tu parlais de découvertes croisées, par exemple, ben, d'amener quelqu'un vers la collection Pawpaw par un Guy Delisle, par un Trondheim, après ça, va peut-être les amener aussi à découvrir d'autres auteurs qui sont peut-être un peu moins omniprésents dans l'écosystème européen ou franco-belge de BD.
C'est sûr que... Un auteur plus connu, l'objectif, c'est de faire rayonner les autres auteurs aussi. Cet auteur plus établi-là va t'amener un lectorat, une curiosité par rapport à ton catalogue. Donc, vont peut-être fouiller un peu plus loin que cet auteur-là. C'est clair. Mais ça, je veux dire, encore là, je reviens, c'est des coups de chance. Là, je veux dire, il y a du monde qui se présente sur ta route, puis t'es chanceux, puis... Tu sais, Loïs, encore, lui, c'était quelqu'un que j'avais... Tu sais, ça s'est pas fait... Voici Capharnaüm, veux-tu le faire sans que je le connaisse? Tu sais, ça faisait quelques années que je le voyais dans des festivals. Encore, j'en reviens aux événements, tu sais, c'est là que tu rencontres des gens, tu jases, puis tu sais, tu établis une espèce de lien de confiance sans que tu es en train de parler de travail, là. Tu sais, tu es en train d'apprendre à te connaître puis de voir les personnalités de chacun. Puis quand c'est le temps de faire ce genre de move-là, ben il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite parce que tu sais avec qui tu vas avoir affaire.
J'imagine qu'il y a toujours une dynamique de crédibilité aussi. Même si on se reporte au départ de l'édition, je pense qu'Apnée avait eu le prix de la Ville de Québec au BDS Causa en 2011, quelques mois après le lancement du livre. Et donc, subitement, déjà dans les deux premiers livres, OK, là, tu as un premier titre primé. Donc, dès le départ, il y a une crédibilité qui s'est installée, qui s'est maintenue après ça au fil des années aussi.
Oui, absolument. D'abord, que Ziane embarque dans le projet en partant, ça, c'est... T'as déjà connu son blog, il rayonnait au maximum. Ça mettait du street cred, de la crédibilité dans le projet direct en partant, là, c'était sûr. Puis qu'elle gagne le prix à Québec, ça pouvait pas tomber mieux. Là, chanceux, j'en reviens encore à ça. Là, c'est ça pareil. Là, c'est des petits détails de même qui s'ajoutent puis qui attirent l'attention. Puis, en même temps, c'est les tapes dans le dos aussi. Je veux dire, c'est pas juste d'amener le regard sur ce que tu fais, mais toi, quand tu es chez vous puis que tu es en nomination, tu reçois des prix, c'est tous ces trucs-là, ben, ça t'encourage. C'est-à-dire, OK, on fait des bonnes choses, on s'en va dans la bonne direction. Je suis pas en train de dire que les prix, c'est comme la finalité de tout, mais je veux dire, ça fait pas mal.
Oui, ben, ça confirme des instincts. C'est comme par exemple, on mentionnait l'affaire des hommes disparus de Chris Burton et Alexander Froese, mais c'est Angoulême, tu as été les chercher, c'est des auteurs canadiens, tu es amené vers le francophone. Ça confirme un instinct que tu avais par rapport à un livre qui était, j'imagine, un coup de cœur pour toi que tu as eu envie d'amener vers le milieu franco-belge, vers le milieu francophone.
Ça, c'est borderline un coup de tête, là, tu sais. Je connaissais pas du tout, je ne sais pas c'était quoi. Il venait de lancer le livre, ça devait faire une semaine, puis il était à exposé. Andy Brown de Conundrum était là, sur la table, tout ça. Puis le pire, c'est que je les avais croisés le matin, les deux gars, tu sais, en veston, cravate, puis j'ai dit, regarde, c'est qui eux autres, tu sais. Ils étaient exposé, tout le monde était habillé tout croche, puis les autres, ils sont tous bien habillés, la grosse, l'affaire, puis ils se sont perdus, tu sais. Fait que j'avais beaucoup une idée, c'était eux autres. Là. J'arrive à la table, puis je vois ce livre-là, puis il m'attire, je l'achète. Le soir, c'était le samedi, le soir, je suis chez nous, puis il est 11h du soir, puis je commence à le lire. C'est un livre de 300 pages quand même. Puis je me suis rendu à 200 pages, puis il fallait que je me couche parce que le lendemain, il y a une autre journée, tout ça, puis j'étais fatigué, puis j'avais pas fini de le lire. Première chose que j'ai fait, je m'en vais à Andy, j'ai dit, je veux les droits de ce livre-là. T'sais, j'avais même pas fini de le lire, je savais même pas comment ça finissait, tu sais. Puis je tripais ben raide, là, tu sais. Fait que, oui, c'est l'instinct, je pense, c'est ça, là, tu sais. Ou des coups de tête, ou des... En tout cas, on peut faire ça comme on veut, là, mais c'est ça. C'est des fois, c'est encore là. C'est les événements. S'il n'y avait pas eu d'exposine, jamais que c'était livré chez Papa, là. La petite pandémie.
Et dans le fond, la question de conclusion, j'ai l'impression que je peux pas vraiment te la poser un peu en lumière de ce que tu me disais aussi. Dans le fond, comment on voit le papa évoluer au fil de 10 ans, j'ai l'impression que tu vas continuer de naviguer à l'instinct puis de créer ta propre chance. J'ai envie de dire, parce que c'est sincèrement en 10 ans de chances diverses que tu mentionnes, j'ai plus envie de te dire que tu l'as créé ta chance. Parce que là, ça devient une suite de chances quand même assez intense.
Je suis né sur une bonne étoile, peut-être, je sais pas. Les 10 prochaines années, pour moi, c'est de. Ça, je le dis, je pense, depuis le jour 1, là, c'est rendre les auteurs, faire des superstars avec eux. T'sais, j'aimerais ça que ce soit des rock stars. La bande dessinée devienne tellement hot et que leurs livres soient tellement reconnus que ils se fassent reconnaître puis que tu sais ils deviennent des superstars. Pour moi c'est ça a toujours été ça, c'est je veux que les auteurs soient des superstars. Fait que je vais continuer de travailler dans cette optique-là, tu sais, puis d'essayer de créer le climat puis l'environnement idéal pour qu'ils deviennent des superstars. T'sais.
Et en terminant, je m'en voudrais de pas le mentionner, mais vous avez une promo 10 ans, 10 livres pour 10 ans à 10 $, donc jusqu'à explosion des stocks en début d'année prochaine. Donc, c'est dans le fond une dizaine de titres, puis je regardais un peu la sélection que vous en avez faite, puis c'est assez vaste. Ça représente assez bien tout ce qui est touché par dans le fond.
C'était ça l'idée, tu sais. Essayer de choisir un livre par décennie, là, c'était compliqué parce que des fois, il y en a qui étaient pas assez en stock, là, mais de choisir un livre par décennie environ. Puis donner une bonne palette de ce que c'est par rapport. Puis des fois, il y a des livres par malchance ou par contexte qui ont eu moins de le spotlight parce que, bon, tu sais, je dirais, oui, il y a de la chance un peu des fois. Tu sais, si tu tombes au mauvais moment, une mauvaise date, il y a des événements extérieurs qui influencent la sortie d'un livre, puis on dirait qu'il y a moins de. Ils entendent moins parler, même si je trouve qu'il y a des livres excellents qui passent sous silence. Fait que c'est de remettre un spotlight sur ces livres-là, puis des fois, juste pour que les gens aient plus de raison pour dire OK, je vais prendre une chance, je vais l'essayer. Puis l'idée, c'est que tu sais, je veux que les livres soient lus. Fait que, tu sais, faut que je m'arrange pour qu'ils les aient dans les mains. Fait que c'était juste d'encourager puis de célébrer avec les gens. Prenez n'importe lequel, vous allez l'aimer. À 10$, c'est pas engageant. Fait que allez-y. Fait que je suis content de la réponse jusqu'à maintenant. Surtout des libraires, en fait. Là, je vois plein de photos passées qui mettent la table dans leur librairie puis qui voici les livres de papa. Puis on voit que les libraires ont le goût de célébrer avec nous. Puis tantôt, on parlait beaucoup de chance, mais les libraires sont une des grandes raisons du succès de Papa. Veux pas, là, t'sais, au début, c'est eux là, qui vendent tes livres, c'est eux autres qui sont en contact avec les lecteurs, fait qu'ils sont très grandement responsables du succès de Papa, c'est les libraires.
Alors ben voilà, donc 10 ans des éditions Pawpaw. Un bon anniversaire, Luc, à toi, à tes auteurs et à ton équipe. Et ben au plaisir de se rejaser en cours de route et peut-être pour un bilan 15 ans, pour un bilan 20 ans et qui sait, éventuellement un bilan 50 ans, si on est encore.
Ben, en tout cas, 15 ans, ça serait le fun de le faire en personne, là, déjà là.
Oui, déjà. Excellent. Ben, merci beaucoup à toi.
Merci à toi. Bye.
La vie en BD, c'est maintenant le moment dans le mois où on se lance dans les lectures de Stéphane Gravel, donc de quoi était composé son mois de novembre en bande dessinée. Stéphane, salut.
Hello, hello, pas si sombre novembre. Des fois, on s'attend à ce que novembre soit sombre, mais non, pas tant, pas tant.
Peut-être as réussi à t'en sortir un peu.
Bah, ben, j'étais parti avec un mois un peu. Honnêtement, j'étais parti avec un mois tranquille en bande dessinée. Puis à un moment donné, j'ai comme trouvé le temps de lire des choses puis d'embarquer un peu. Je pense qu'on a tellement peur que l'hiver arrive que chaque journée ensoleillée, on en profite et on va dehors. Mais fait que là, je me suis embarqué. Puis j'ai embarqué dans une BD qui vient dont le tome 3 vient de paraître. C'est Renaissance. Renaissance, c'est une bande dessinée de science-fiction. Je pense qu'on commence à savoir que la science-fiction n'est pas nécessairement mon genre est privilégié, c'est pas le genre de BD que je préfère.
Non, mais tu te
Mais
laisses
je sais pas,
surprendre.
celle-là,
Non, je te laisse surprendre, sporadiquement quand même.
à chaque fois que j'en lis, j'aime ça. Fait que je vais arrêter de le dire. Mais j'aimais beaucoup le côté graphique de cette bande dessinée-là, parce que c'est une BD de science-fiction, mais où, quand on regarde la page de d'autres couvertures, là, il y a toujours un dessin d'un extraterrestre, parce que Renaissance, c'est des extraterrestres qui viennent faire renaître, entre guillemets, la Terre. Puis il y a toujours un dessin qui fait très 1950, qui fait très américain, mais au lieu que ce soit un personnage, un humain qui est là, c'est un extraterrestre qui est là, puis qui a l'air à cocheter sur quelque chose. Puis moi, c'est bizarre, mais c'est ces images-là qui m'ont donné le goût de lire cette bande dessinée-là. Puis c'est aussi le côté graphique des extraterrestres que pourtant on est dans le cliché là, c'est des espèces de bonhommes verts à allure humaine, mais ils ont tellement l'air à avoir de la classe dans leur façon de bouger, d'être. Bon, j'ai décidé d'embarquer. Et là on commence sur une planète Terre qui a beaucoup de problèmes et qui a des problèmes de virus. Il y a une contamination, il y a une espèce de grippe qui vient de la Chine et tout le monde est en train d'attraper ça. Puis là, quand on parle du tome 1, là, on ne parle pas de 2019, là, on doit parler de 2017-2018. Ça fait qu'il y a un petit côté là, que je trouve extrêmement intéressant. Ça ne va pas bien aux États-Unis,
Oui, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu dans l'air du temps, là, si on peut dire.
Absolument. Ça ne va pas bien aux États-Unis. Il y a une espèce de forme de guerre civile entre la gauche et la droite. La gestion du pétrole est quelque chose de complètement... les gens sont complètement dépassés. Les puits de pétrole sont en feu partout. Et là, ces extraterrestres-là décident de venir sur Terre en faisant le projet Renaissance et de venir essayer d'aider les terriens, les humains, à pouvoir continuer à gérer leur planète et à survivre. Ils font ça un peu comme nous, on va faire avec avec des animaux qui sont en voie de disparition. On va essayer de mettre en place les choses pour essayer de les aider et de conserver la race. Et eux, ils font ça, c'est pour conserver la race humaine. Donc, c'est assez... écoute, c'est assez intéressant, c'est le fun à lire. C'est peut-être un peu parfois un peu cliché science-fiction là, dans ce genre de bande dessinée-là, mais étant donné qu'il y a des liens qui se font avec l'actualité, avec ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est tout à fait normal, là, c'est pas des extraterrestres qui ont écrit la BD, là, mais ça nous amène à réfléchir un peu sur la condition humaine et sur la condition de l'homme. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant dans cette bande dessinée-là, mais c'est pas une BD faite nécessairement pour la réflexion. C'est pas une BD coup de poing qui va te chercher en dedans puis qui te fait réfléchir sur la condition. C'est vraiment une BD de divertissement, là. On est à mi-chemin entre un Star Wars et une science-fiction beaucoup plus profonde, là.
Et j'ai l'impression, en fait, parce qu'on s'amuse des fois à trouver des thématiques dans tes lectures. Tu m'avais dit d'entrée de jeu, ben regarde, ce mois-ci en novembre, j'ai pas vraiment de thématique, mais en même temps, le deuxième titre sur lequel tu nous amènes, il y a aussi un certain ancrage dans une certaine actualité.
Et là, malheureusement, c'est comme ça, mais là, j'ai été extrêmement surpris par cette BD-là. Et c'est la BD de Book et Charin qui s'appelle New York Cannibal. Écoute, là, c'est une BD choc. C'est une BD qui a marqué beaucoup la rentrée littéraire, là, la rentrée en BD. Ça fait suite à une autre bande dessinée qui avait été faite il y a quand même plusieurs années, Little Tulip, par les deux mêmes auteurs, par Charin et Book. Ceux qui ne connaissent pas Book, c'est quelqu'un qui a un dessin qui est extraordinaire. Moi, je trouve qu'il y a un dessin qui est extraordinaire parce que son dessin sert à raconter l'histoire qu'il raconte. Ce n'est pas quelqu'un qui a un graphisme nécessairement beau, nécessairement racoleur, mais il y a un trait qui est gestuel, il y a un trait qui a une certaine violence même dans son trait. Il y a quelque chose de très, très, très fascinant dans son dessin. Moi, je l'aime beaucoup depuis longtemps. Charin est un auteur aussi de romans qui a fait pas mal de trucs et qui a beaucoup d'imagination. Et là, avec New York Cannibal, on rentre dans un New York où il y a une espèce de communauté, je vais le dire, mais il y a un commerce du sang qui se fait et un commerce du sang d'enfants pour pouvoir alimenter certaines personnes qui ont besoin de ça. Et c'est drôle parce que... C'est des conspirations qu'on entend. Puis ce que je trouve le fun, c'est que jamais on va faire allusion à ces conspirations-là dans la BD de Charin. Jamais on va essayer de dire qu'on raconte ou qu'on veut faire une caricature de ces histoires-là. C'est pas ça. C'est un univers qui est très, très réaliste. D'abord, tu as une femme qui est presque un homme, qui est bourrée de stéroïdes, qui est dans la police, qui a les bras gros comme le haut de mon corps, et puis qui, bien sûr, tout son système est débalancé par la prise de stéroïdes, n'est pas capable d'avoir d'enfant. Miracle, elle trouve un enfant qu'elle va adopter. Et ça va amener sur la découverte qu'il y a tout un manège d'enfants où on va demander aux femmes d'enfanter pour pouvoir prendre le sang de ces enfants-là et le donner et le vendre à une certaine communauté. Ça ressemble beaucoup aux conspirations qu'on voit aujourd'hui. L'idée de base de Charest et Book n'était pas nécessairement là. On voulait plus parler qu'il y a des gens, beaucoup de gens aux États-Unis qui vont vendre du sang pour pouvoir faire des tests pour les produits pharmaceutiques jusqu'à tomber anémique. Mais là, avec toute l'ampleur de avec les États profonds, le Deep State et Trump QAnon, on tombe dans tout cet univers-là. Et c'est là que je trouve que ça devient extrêmement fascinant et extrêmement intéressant parce que, je parle beaucoup, parce que on a l'impression que c'est fou, que c'est complètement impossible. Puis quand on regarde l'actualité à côté, on se dit, ben non, dans le fond, c'est pas si fou que ça. C'est vraiment, 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 vraiment touchant comme BD. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ça. Donc, c'est pas nécessaire de lire les deux.
Mais ça ajoute aussi.
Mais ça ajoute parce que c'est les mêmes personnages que dans Little Tulip. Les personnages ont vieilli. Il s'est passé beaucoup de temps entre les deux histoires. Il s'est passé un temps réel aussi dans le récit. C'est-à-dire que Book et Charest ont décidé qu'ils faisaient vieillir les personnages comme la BD, si on veut. C'est un univers extrêmement fascinant et très, très créatif.
Et si on parle aussi d'univers, là, j'ai l'impression qu'on tombe un peu pour ton troisième titre chez un auteur que tu apprécies depuis qu'on jase de BD. Je pense qu'à chaque fois qu'il nous arrive avec une production, tu as envie de nous en parler. Et donc, c'est Jeff Lemire et qui nous est arrivé chez Futuropolis avec The Nobody.
Là, c'est pas. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très ancré dans l'actualité cette
on
fois-ci.
On brise le thème.
Sauf qu'avec la COVID, on est tous devenus un peu des nobody. Parce que quelque part dans cette histoire-là, c'est l'histoire d'un confinement ultime. C'est un homme qui n'a plus d'identité, qui n'a plus de visage, qui n'a même plus de forme. On tombe la science-fiction, dans le fantastique classique, là. Et il s'en va dans un village pour essayer de retrouver ses origines, retrouver aussi peut-être l'antidote de ce qui pourrait pourrait le ramener à l'image, parce que c'est avec un produit qu'il est devenu invisible et il veut essayer de trouver la formule inverse pour devenir visible. Donc, à quelque part, c'est de la recherche du vaccin. Fait que, oui, on peut continuer à dire que c'est un monde que c'est un monde qu'on connaît. Mais ce que j'ai beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Lemire parce que, surtout quand il commence à travailler, quand il travaille seul comme ça, puis qu'on a l'impression qu'il se laisse aller dans une BD qui est pour lui une espèce de fantasme de jeunesse, c'est-à-dire j'ai le goût de faire l'homme invisible, j'ai le goût de travailler avec ce thème-là, j'ai le goût d'avoir un personnage avec des bandelettes, j'ai le goût d'avoir quelqu'un qui enlève ses bandelettes et qui n'a rien en dessous. C'est des univers comme Frankenstein, comme les vampires, comme les momies, c'est des univers qui sont tellement établis, qui sont tellement classiques que ça devient une matière première extrêmement le fun à modeler et à travailler. Puis lui, ben, il réussit encore une fois à ramener quand même ses thèmes à lui, c'est-à-dire des thèmes de solitude, d'introspection, de petits villages paumés où tout le monde se connaît. Fait que t'imagines un petit village comme ça, qui, entre guillemets, est une zone verte. Il n'y a personne qui a entendu parler et connaît la COVID-là. Et arrive un personnage comme ça qui on ne le sait pas, ils ne savent pas que c'est un homme invisible, mais ils voient quand même qu'il y a plein de bandelettes. Qui se cache et des personnes essaient de prendre contact avec lui et d'autres vont l'accuser de tous les maux sans savoir qui il est. Fait que ça devient une bande dessinée que je trouve qui est très belle parce qu'il dessine bien et qui est très belle au niveau du récit aussi. Donc, moi, c'est ta raison. J'aime beaucoup Lemire et c'est son côté. Quand il travaille tout seul comme ça, je trouve qu'il amène un côté très différent de la bande dessinée américaine qui a tendance à faire aussi. Parce que, tu sais, Lemire, il va toucher à Green Lantern, puis il va toucher à des trucs très personnels à côté.
Oui, il y a toujours quelque chose de particulier dans ses projets personnels qui viennent, qui happent. À chaque fois qu'il décide de se laisser aller de ce côté-là, ça donne toujours des résultats assez stimulants. Là. J'ai pas de mauvais souvenirs d'albums.
Non, c'est des bandes dessinées qui viennent chercher un côté intellectuel, c'est-à-dire qu'il vient chercher une réflexion, il y a un côté tourmenté, il y a un côté sombre, les choses sont pas roses, On ne va pas nécessairement avoir de happy end dans ces BD. Et je trouve ça extrêmement fascinant. Et je trouve ça intéressant aussi qu'un gars comme ça puisse avoir accès au rêve américain.
Et parlant du rêve américain, on fait le segue, tu me tends la perche vers ton quatrième titre de novembre, Stéphane Gravel. Alors, un rêve américain, Joe Shuster, donc chez Urban Comics, l'histoire des créateurs de Superman, essentiellement.
Oui, mais oui, absolument. C'est pas. Là, je vais. C'est pas. C'est une DB. On a déjà lu des BD comme ça. J'ai déjà lu des bandes dessinées de ce style-là. Il n'y a rien d'extrêmement créatif dans la façon de le faire. Il n'y a rien de surprenant. Sauf que je me suis dit, ah tiens, on parle souvent de Batman. On parle souvent de Batman est extrêmement présent, surtout qu'il a réussi à se moderniser. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que Superman s'est modernisé, lui? J'ai pas encore plongé assez dans Superman pour savoir s'il s'était modernisé autant. Et là, quand j'ai vu cette BD-là passer, j'ai dit, ah oui, c'est un Canadien, lui, hein, qui a fait Superman. Fait que ça m'a donné le goût d'aller voir. C'est un Canadien, mais on s'entend, là. Et les Canadiens, comme moi, je viens du Saguenay. Là. Je suis parti de là, j'avais 2 ans. Là. Il est parti très tôt du Canada pour s'en aller aux États-Unis. Mais c'est son histoire et c'est l'histoire de comment ce personnage-là, parce que là, on va l'appeler personnage, a travaillé sur un projet qui est énorme, qui est Superman, et qui n'a pas réussi à avoir tous les crédits qu'ils avaient pour avoir Superman. Moi, c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment cette bande dessinée-là. C'est quand j'ai vu comment ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu au départ, ces deux auteurs-là, Siegel et Shuster. Ils n'étaient pas capables d'avoir leur personnage. C'était le début, c'était le tout début, c'était le prologue au comic book. Le personnage était intéressant, mais trop enfantin, c'est pas ça qu'on cherchait. Ils ont eu de la difficulté, ils ont été obligés de vendre l'idée du personnage, une bouchée de pain à quelqu'un qui y a cru, en vendant les droits, mais en gardant l'exclusivité, en gardant la possibilité et non l'exclusivité de travailler dessus. Fait qu'ils sont presque devenus esclaves de leur personnage de Superman. Les droits leur appartenaient même plus. Et là, tu te dis, aïe, aïe, c'est vraiment, là, ça devient fascinant. Et là, arrive un homme à qui on demande, est-ce que tu pourrais me faire un personnage qui pourrait marcher autant que Superman? Parce que là, Superman, ça fonctionne. Là. C'est les produits dérivés, c'est les pyjamas, c'est les enfants veulent tous être Superman. C'est la totale,
vraiment.
C'est la totale. Eux, ils ont eu rien au départ, puis ils ont un salaire pour continuer à travailler dessus, là. Et le dessinateur va en faire des tendinites, il va devenir presque aveugle à force de travailler sur son Superman. L'auteur va essayer de vendre d'autres choses, il va toujours avoir de la difficulté parce qu'on veut qu'il fasse juste du Superman parce que c'est Superman qui marche, mais il n'a même pas les droits de son personnage. Et là, une autre compagnie va dire à un autre homme, peux-tu me faire un personnage un peu comme Superman? Et le bonhomme qui s'appelle Bob Kane va dire, oui, je vais te créer quelqu'un, puis il crée un personnage qui s'appelle Batman. Mais lui, pas fou, a vu comment Superman, ça ne marche pas. Et lui va dire, mais c'est mon personnage. Je conserve les droits.
Il a appris des là, erreurs de Shuster et Siegel.
Exactement. Là. Et là, il y a tout un débat et un questionnement à propos des droits d'auteur et l'appartenance des personnages. Parce que on va même le voir un peu. Batman n'appartient pas à Bob Kane tant que ça. Mais Bob Kane va avoir pris les droits, tandis que de l'autre côté, tu as deux personnages qui appartiennent totalement, leur appartiennent totalement, et n'en ont pas les droits. À la rigueur, ils sont plus près d'avoir les droits de Batman que Bob Kane, parce que Batman est une copie des projets de Siegel à l'époque. C'est extrêmement fascinant, mais ce n'est qu'à la sortie du premier film de Superman. Qui était quoi dans les années 80 peut-être, où on va voir leur nom. Parce que les auteurs ont décidé de faire de la pression sur les majors de cinéma. Et les majors, pour ne pas avoir de problème d'avoir l'air de des voleurs, ont décidé de mettre leur nom comme étant des créateurs de Superman. Mais Superman a été créé dans les années 30.
Oui, non, c'est terrible, c'est terrible.
Fait que c'est 50 ans à peu près, là, 40 ans, où ces gars-là se sont battus pour avoir les droits de leur personnage. Et Shuster a failli mourir pauvre, là, si ça n'avait pas été de cette aventure-là. Donc, c'est une BD extrêmement fascinante pour l'histoire de la bande dessinée, pour l'histoire d'un personnage comme Superman, qui est très secondaire dans l'histoire, dans le fond, mais aussi de comment les auteurs sont un peu esclaves des producteurs et étaient esclaves des producteurs à l'époque. En fin de compte, ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir sur les droits d'auteur.
Alors, à découvrir, je rappelle les titres dont tu nous as parlé, Stéphane, donc la trilogie Renaissance, donc le troisième tome qui est sorti tout récemment. Donc, on a parlé de New York Cannibals et de Little Tulip par la bande. On a mentionné The Nobody de Jeff Lemire et on vient de parler d'un rêve américain, Joe Shuster, chez Urban Comics. Alors, voilà pour le mois de novembre en BD. Nous, on se revoit en décembre.
Absolument. En décembre, ça va être les cadeaux de Noël, là.
Pourquoi pas?
Oui, parce que là, je commence à avoir le goût de lire du Superman. Je suis curieux de savoir où il a amené, où il est rendu, ce personnage-là.
Alors, on verra où tu nous amènes en décembre.
On verra.
N'annonce pas tes couleurs trop vite.
Exactement.
Salut bien, Stéphane. Je prends quelques instants pour vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle L'Ermite maudit, donc le deuxième tome des Mystères de Uptown, donc une série qui nous arrive du côté du Canada anglais, du côté de la Nouvelle-Écosse, par le truchement des auteurs Chris Burton et Alexander Forbes. Deuxième tome, je disais, premier tome qui est arrivé chez Pawpaw, tout comme le deuxième l'an dernier, donc avec l'affaire des hommes disparus. Et déjà, en fait, pour moi, c'était le coup de cœur quand je suis tombé sur ce premier tome. Le genre de BD dont on n'a pas envie de déposer le livre, dont on a envie de continuer jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui arrive dans Uptown. Donc, les auteurs Burton et Forbes développent une ville assez particulière qui va nous faire penser peut-être un peu à Twin Peaks, par exemple, de David Lynch. Donc, où tous les personnages semblent avoir un passé un peu plus sombre, peut-être quelque chose à se reprocher, peut-être pas, mais quand même une part de mystère. Et ce, à l'intérieur d'une ville qui est elle-même assise sur ce mystère-là, qui est omniprésent dans toutes les facettes de cette ville. Et donc, avec le premier tome, L'affaire des hommes disparus, bien, on commençait à se positionner, à découvrir cet univers-là, à découvrir donc le mystère qui est dans les veines de cette ville-là. Et avec le deuxième, on poursuit toujours dans cette suite en se concentrant sur deux autres personnages qui étaient présents dans le premier. Et là, on se retrouve dans une école privée où ils sont pour une saison, pour des apprentissages particuliers. Ils ont été sélectionnés pour le volet. Mais pourquoi ont-ils été sélectionnés? Qu'est-ce que c'est que cette école-là? Qu'est-ce que cet ermite aussi qu'on voit de temps à autre passer dans le village? Y a-t-il des liens entre lui et l'école? Quel est le lien entre l'école et la grande mythologie de la ville également? Donc, qu'est-ce qui tourne un peu autour de tout ça? Et dans le contexte où on va se retrouver aussi dans un rythme qui va peut-être emprunter un peu plus au thriller, un peu tendance horrifique, à la limite, en fait, dans une maison avec quand même une présence un peu sombre, surnaturelle presque, et des gens qui doivent se positionner face à cette présence-là et qui veulent l'enquêter, la confronter, mais en gardant aussi les aspects, le rythme et l'énergie du premier, où je parlais de Twin Peaks tantôt, mais également on peut penser aux Hardy Boys, on peut penser à Scooby-Doo, dans une certaine limite, puisqu'on a quand même un club de jeunes qui cherchent à faire des enquêtes, à creuser, à aller chercher de l'information, à découvrir justement des énigmes et à les résoudre. Alors on garde cet esprit bon enfant, mais avec un petit élément d'ambiance là, particulier associé au bâtiment, associé à un certain huis clos presque qu'on a à l'intérieur de cette école-là, donc dans cet ermite maudit. Donc, ceux qui avaient aimé le premier vont aimer le deuxième. En fait, c'est une suite logique et c'est aussi bon que le deuxième aussi. Donc, on tourne les pages, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de découvrir si on va avoir un peu plus d'informations par rapport au mystère qu'on avait dévoilé au fil du premier. Donc, c'est assez enthousiasmant à lire. Et parallèlement, si on n'a pas lu le premier, je vous le dis d'emblée, il faut aller le lire. C'est vraiment un de mes coups de cœur personnels. Enfin, ce qui me concerne, là, je vous dis, lisez le premier. Si vous lisez le premier, vous allez vouloir lire le deuxième. De toute façon, je n'aurai pas besoin de vous convaincre non plus. Donc, c'est bien réalisé, c'est bien rythmé. C'est des livres qui peuvent être denses, mais qui sont clairs, qui sont précis, qui sont somme toute concis, qui savent où ils s'en vont, qui sont rondement menés, mais en donnant assez de place aussi justement à l'anecdotique, aux personnages, à l'univers, à la ville, aux bâtiments, aux lieux, à des multitudes de personnages secondaires. Mais tout ça dans un contexte où on ne s'y perd pas non plus. Et c'est pour ça que je disais, c'est finement réalisé et c'est bien mené parce qu'avec la cavalcade d'éléments auxquels ils ont accès et qui mettent de l'avant, on aurait pu s'y perdre dans ce livre-là et dans cette série-là. Et non, on ne s'y perd pas, au contraire. Et c'est bien dessiné, un esthétique peut-être un peu rétro. Là, je trouvais qu'on va chercher un peu un style de dessin, peut-être années 50, 60, un peu, avec un certain type d'édition, d'ouvrage de BD peut-être un peu plus pulp qu'on aurait retrouvé à l'époque. Donc bref, même visuellement, là, ça cadre bien dans l'ambiance, dans l'esprit un peu Hardy Boys qu'on met de l'avant aussi là-dedans. Donc bref, c'est vraiment très, très bon. C'est le premier tome, L'affaire des hommes disparus, une très forte recommandation si vous ne l'avez pas lu. Et si vous l'avez lu, vous ne regretterai pas de lire également L'ermite maudit. Je le réitère, coup de cœur pour moi, autant pour le premier que pour le deuxième tome. C'est disponible du côté de Pawpaw en français. C'est de Chris Burton et Alexander Forbes. On va parler de Zenka Mono, tome 1, repris de Justice. C'est dessiné par Toji Tsukishima et c'est d'après une histoire de Masaito Kagawa. Donc, une bande dessinée qui nous arrive du côté du Lézard Noir. Lézard Noir, en fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me fais toujours un plaisir de recevoir une BD de cet éditeur-là. À date, je n'ai pas été déçu de leur proposition, de leurs choix éditoriaux, que ce soit comme on a vu l'an dernier avec Agnès Ostache, donc une première édition d'une autrice du côté français, que ce soit dans leur traduction vers le français d'ouvrages du côté de l'Orient, du côté du Japon, qu'on pense à Tokyo Kaido, qu'on pense à donc d'autres ouvrages de Minotaro Mochizuki, qu'on pense au à la cantine de minuit de Yaru Abe, entre autres titres. Donc, c'est généralement des belles sélections. Et ce qui fait que quand l'ouvrage est arrivé, je me suis dit, est-ce que ça va être aussi bon, aussi sympathique, aussi agréable comme lecture que ses précédents ouvrages? Et la réponse, pour faire bref, c'est oui, c'est une bonne lecture, c'est agréable, c'est intéressant. Et ça nous amène différemment, donc dans les méandres de l'âme et de la psyché humaine. Donc, dans Zenka Mono, donc ce qu'on découvre, c'est, première chose, en fait, quand on accompagne un détenu, donc les agents de probation au Japon, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles qui ont envie de s'investir auprès de leur communauté et qui le font par volonté, justement, d'avoir un impact social, d'aider les gens, d'aider son prochain. Et donc, on retrouve donc une agente de probation qui doit accompagner donc un homme qui a été emprisonné pendant quelques années pour le meurtre de son frère, un meurtre qu'il aurait fait par un peu accès de jalousie, accès de frustration et vengeance, dans la mesure où son frère aurait violé, dans le fond, sa fiancée à l'époque et donc aurait servi comme moteur vers le meurtre. Donc, il a été relâché à cause des circonstances atténuantes associées, évidemment, au meurtre et aussi pour bon comportement. Et donc, il se retrouve catapulté dans le monde réel et elle se retrouve catapultée à ses côtés. Lui tentera de rebâtir sa vie, évidemment, de comprendre un peu, peut-être un peu ce qui s'est passé, de voir où les gens aujourd'hui se positionnent, où lui se repositionne. Après avoir fait ce qu'il a fait, évidemment, qui n'est pas facile à accepter, bien au contraire, qu'on ne doit pas nécessairement accepter non plus. Parallèlement, sa fiancée, donc, qui reviendra dans sa vie. Pourquoi, de quelle façon, les autres aussi, quelles sont leurs positions un peu par rapport à lui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé également derrière, pas nécessairement le meurtre, mais les circonstances associées au meurtre. Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il a agi de façon quand même, entre guillemets, juste? Donc, il y a quand même pas mal de questions de ce côté-là. Et tout ça, on le découvre un peu par le prisme, justement, de cette agente de probation-là qui fait ce travail-là, mais qui, en parallèle, continue, elle, de mener son quotidien, de mener sa vie, de cumuler plusieurs emplois pour survivre, d'aller travailler dans un dépanneur, dans une supérette, sur certaines périodes de journée, comment elle vit un peu un tiraillement entre sa volonté d'implication sociale, de faire une différence, donc à travers cette tâche-là, et son quotidien, la nécessité monétaire, la relation qu'elle entretient avec ses patrons. Donc, on joue un peu avec ces dimensions-là. Et au final, ben, les titres que je mentionnais tantôt, que ce soit Cantine de minuit, Kaido et les autres, ben, ça reste, dans le fond, des mangas qui observent l'humain dans différents contextes, dans différentes réalités. Et on est encore donc, dans cette observation de l'humain, donc dans un récit qui est un peu ancré dans un certain quotidien. Évidemment, il y a un côté exceptionnel avec la dynamique de meurtre, de prison et le reste, mais au final, c'est une étude sur nos comportements, sur nos réactions, sur nos perceptions, sur nos réflexions, sur l'humanité en général, et une autre belle forêt vers justement cette mentalité japonaise qu'on découvre beaucoup à travers justement des ouvrages comme ceux-là. Donc vraiment, le dessin est efficace, solide, classique, rien à redire de ce côté-là. En fait, il est là pour servir l'histoire, pour servir le récit, pour servir les personnages, il le fait bien. Et l'histoire elle-même, elle est simple, pas transcendante, mais elle témoigne de belle façon d'une réalité qui est intéressante et qui est d'intérêt. Alors, ça s'appelle Zenka Mono, le premier tome, donc repris de Justice. C'est du côté de Lézard Noir, premier tome, qui annonce évidemment une série qui, elle, s'annonce pour être bien intéressante. Petit clin d'œil à Sur la route de Whiskeyville. Donc, c'est de Macon Blair et Joe Flood. C'est du côté de Rue de Sèvres. Sur la route de Whiskeyville, un ouvrage assez particulier, disons-le comme ça, qui a un petit côté Odyssée, qui a un petit côté Oh Brother, Where Art Thou, qui est inspiré de l'Odyssée. Donc, on se retrouve un peu dans une Amérique, dans l'Amérique profonde. Et on se retrouve avec, dans ce cas-ci, deux clochards qui, dans les premières séquences, ben, vont voler, dans le fond, une tourte. Donc, une tourtière, quelque chose, une tarte à la viande. Ils vont la chercher, la volent, mais ont volé, dans le fond, l'épouse d'un chef de police local. L'épouse sort avec une arme. Finalement, l'arme lui éclate dans les mains. Elle perd sa main. Elle va au chevet de son mari. Son mari a son chevet mourir au bout de son sang. Et son mari va vouer une vengeance absolue à ces deux clochards-là qui ont volé une tourte et qui, par réaction en chaîne, a entraîné la mort de sa belle. Évidemment, il y a d'autres circonstances un peu autour de ça, mais ça donne le point de départ. Et donc là, va s'engendrer essentiellement une chasse à l'homme où les deux clochards voient bien qu'ils ne peuvent pas rester à l'endroit où ils sont, qu'ils vont embarquer dans le train, qu'ils vont aller d'une première destination vers une deuxième, vers une troisième. Toujours avec ce patibulaire policier qui va les suivre jamais de très, très loin et lui qui va semer littéralement un chaos absolu sur son quartier, je veux dire, sur son passage. Je veux dire, il y a un moment, par exemple, où on est dans une ville, à un moment donné, lui arrive, va mettre la ville à feu et à sang pour assouvir sa vengeance, va faire la même chose un peu plus tard avec dans une forêt en chasse, dans le fond, de monstres qui ont été kidnappés par un type un peu douteux. Donc, c'est complètement chaotique, ces moments-là. Et à travers les moments où, finalement, ce policier-là rattrape les deux clochards, ben, il y a les moments où on voit les clochards arriver, justement, s'installer, prendre contact, découvrir l'univers dans lequel ils se trouvent. Parfois de manière brève, parfois de manière plus prolongée, mais surtout, on va vraiment avoir, dans le fond, un peu façon road movie, une rencontre de plusieurs contextes, de plusieurs réalités, de plusieurs dynamiques, autant chez un pasteur ambulant, autant dans une espèce d'empire de clochards qui existe en parallèle dans une ville, autant au contact, justement, de ces, entre guillemets, monstres, ces freaks qui ont été kidnappés par un revendeur qui cherche à les revendre potentiellement à un cirque. Donc, différents épisodes comme ça qui vont se cumuler. Et c'est dans ces épisodes-là que la dynamique, la personnalité d'un côté des clochards va s'exprimer. Donc, une grande amitié entre les deux, peut-être plus. Tranquillement aussi, évidemment, une galerie de personnages va s'accumuler au fil du récit, donc des gens qui sont toujours très haut en couleur. Et donc, ce qui fait qu'on a un côté un peu délirant, dans le fond, au bout du compte, quand on suit les deux clochards et si on limite l'action à leur odyssée, à eux, eh bien, c'est un road movie où on va de personnages truculents, plus grands que nature, presque caricaturaux, en rencontre toujours plus extrême, particulière, mais avec une rupture de ton où là, subitement, la violence les rattrape. La rage complètement excessive et exacerbée de ce policier-là qui les attrape. Et là, subitement, chaque épisode se termine un peu dans une hécatombe presque. Donc, ça donne un récit assez particulier, un rythme un peu en dents de scie qui va surprendre, mais en même temps qui amène toute sa saveur à Sur la route de Whiskeyville. Whiskeyville étant, et on le découvre assez rapidement dans le récit, dans le fond, une espèce de rêve, donc le paradis, dans le fond, des clochards et des vagabonds, que les deux personnages vont chercher à atteindre au fil également de leur parcours et de leur, entre guillemets, odyssée. Donc, c'est dessiné, c'est de façon très colorée, je veux dire, d'un point de vue visuel, là, c'est les pages sont assez très vivantes. Bon, il y a des moments très sombres, des moments très colorés aussi, très expressifs côté personnage. Donc, c'est fait que ça fonctionne bien. C'est un récit quand même basé sur la chimie, la dynamique entre différents personnages. Ça va quand même assez rapidement d'épisode en épisode. Dans le fond, avec ces particularités-là, les ruptures de ton, la dynamique du récit, mais ça fait quand même que ce n'est pas un récit qui va nous laisser indifférent. Donc, soit on va l'aimer, soit il va nous laisser un petit peu plus froid, mais on va s'en rappeler parce qu'au final, Macon Blair et Joe Flood réussissent à créer quelque chose qui est mémorable, dont on se rappelle, qu'on l'apprécie ou non. Personnellement, j'aurais envie de vous dire, jetez un coup d'œil si vous le rencontrez en librairie, lisez quelques pages, voyez si le ton vous convient. Et si le ton vous convient et que vous avez envie d'embarquer dans quelque chose d'abracadabrant, d'invraisemblable, de particulier, eh bien, ça peut être intéressant pour vous. Ça s'appelle Sur la route de Whiskeyville et c'est chez Rue de Sèvres. Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et la semaine prochaine, je me retrouverai en groupe puisque ce sera une édition du Club de lecture. De quoi va-t-on parler? On vous invite à consulter un peu plus tard cette semaine, lavieenbd.com pour plus d'informations. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous et à la semaine prochaine.